Frères et sœurs bien-aimés, nous voici réunis en cette église en ce 11 novembre, mois où nous prions plus particulièrement pour tous nos fidèles défunts et à l'occasion de cette messe, dans l'action de grâce du sacrifice qu'ils ont accompli pour nous et pour notre pays, nous portons le souvenir de tous les fidèles défunts dont les noms sont gravés dans le marbre de nos monuments aux morts. Des pères, des grands-pères, tous nos aïeux, tous ceux qui ont répondu à l'appel de la patrie, à l'appel des drapeaux, et qui se sont battus pour que notre pays demeure un pays souverain et libre. Leur sacrifice nous engage aujourd'hui. Et c'est dans cette action de grâce que nous faisons monter en cette messe la prière pour tous les morts pour la France et que nous prions ardemment pour notre pays. La figure que nous contemplons en ce 11 novembre est une figure qui a profondément marqué l'ancienne France. Martin. Martin venait de Hongrie. Son père, militaire de l'Empire romain, l'avait fait entrer en cette profession. Enfant, Martin, qui porte le nom de Mars, du dieu de la guerre, fréquentait plutôt la jeune communauté chrétienne. Il avait appris à découvrir le dieu d'amour et de vérité, celui dont nous venons entendre dans l'Évangile l'exigence d'amour, de justice et de miséricorde. Il ne pouvait pas encore, dans cette liberté familiale, embraser publiquement la foi chrétienne, mais là était bien le désir de son cœur. Il servit donc fidèlement l'armée impériale qui le conduisit, en France, du moins en ce temps-là, en Gaule. Voilà donc Martin, soldat, qui entre, nous connaissons bien cette histoire, dans la ville d'Amiens. Et dans la ville d'Amiens, lorsqu'il la traverse, il voit un pauvre transi de froid. Il se meurt devant lui. Il aurait pu passer son chemin car sa mission militaire ne lui demandait pas de porter secours ou assistance, mais sa foi chrétienne déjà bien vive en son âme le fit descendre de cheval. Il prit son glaive pour tailler sa cape. Il donna la doublure de cette cape, car seule la doublure lui appartenait, le reste appartenait à l'armée. Il donna cette cape à ce pauvre. « J'étais nu », avons-nous entendu dire dans l'Évangile, « et vous m'avez habillé ». Cet acte, qui aurait pu rester comme un petit acte d'héroïsme du quotidien, a profondément marqué nos aïeux dans la foi. Il faut dire que quelque temps après, Martin, comme en cet évangile, eut l'apparition du Christ, lui disant « Martin, tu m'as vêtu ». Voilà que le Christ apparaissait sous les traits de ce pauvre. Telle était bien la foi de Martin. Il ne connaissait ni d'Ève ni d'Adam, celui qui mourait de froid, mais à travers cette souffrance, lui qui savait méditer la passion du Seigneur, y avait reconnu le Christ. Dans sa passion, alors il descendit de cheval et le vêtit. Cet épisode, représenté dans d'innombrables églises, fresques de nos glorieuses cathédrales, a également donné, capé, le nom de la cape, le nom à la famille et à la dynastie des Capétiens. C'est dire si cet acte de charité si symbolique a profondément marqué notre terre de France. Martin put enfin quitter sa carrière militaire et entrer enfin en religion, comme on dirait aujourd'hui. Il alla visiter le grand Saint-Hilaire de Poitiers, évêque éloquent, très instruit, qui put guider le charisme intérieur que ressentait Martin, qui décida de se retirer vers Ligugé pour s'abîmer dans la prière, dans une vie religieuse déjà. Voilà qu'il veut se donner au Seigneur dans la contemplation des Saintes Écritures, dans la célébration de l'Eucharistie. Il sera ordonné prêtre dans ce cadre. Et puis Martin, dont on sait le grand cœur, eh bien, va être choisi, va même être cherché en cette vie religieuse pour devenir l'évêque de Tours. Martin alors s'engagea à l'évangélisation de cette cité de Tours, et une fois la vie chrétienne solidement installée dans cette cité, décida alors de s'occuper des campagnes. Le christianisme est né dans les villes et s'est répandu dans les campagnes, de telle sorte que ce dont nous avons assisté dans la déchristianisation, c'est que les campagnes sont restées un temps les derniers bastions de la foi, alors que les villes avaient perdu le christianisme, et aujourd'hui nous revoyons dans les villes, nous le voyons à travers les vacanciers que nous recevons, la jeunesse et le dynamisme de la vitalité chrétienne se retrouvent de nouveau dans les villes, non que nous ayons à nous désespérer de la campagne, mais voilà que Martin s'est donc donné pour aller évangéliser ses campagnes. Et lorsqu'il mourut, un 11 novembre, alors que le froid avait été si manifeste, il y eut, comme un changement climatique, dirions-nous aujourd'hui avec effroi, l'été de la Saint-Martin, celui qui avait su réchauffer le cœur de tous ceux pauvres et moins pauvres qu'il avait rencontrés. Et bien voilà que le soleil était venu ce jour-là couronner son entrée en paradis. Cet engagement de Saint-Martin, exemplaire pour chacun de nous, en a fait un des saints patrons de notre France, l'apôtre des Gaules. Nous lui demandons, nous qui vivons dans les campagnes de notre France, qu'il nous aide à ne pas perdre les valeurs essentielles qui sont celles que nous avons héritées de nos aïeux. Avant de penser aux vertus surnaturelles de foi, d'espérance, de charité bien légitimes, nous pensons aussi au sens de la famille, au sens d'un travail bien fait et accompli, à cet engagement qui était vraiment celui de nos aïeux pour faire en sorte que, malgré une vie très laborieuse, ils puissent apporter tout ce qui est nécessaire à la vie de leur famille. Nous demandons donc à Saint Martin d'intercéder pour nous du haut du ciel, également pour tous ceux qui, soldats comme lui, se sont battus pour notre France. À l'occasion des fêtes de la Toussaint, je vous ai annoncé cette belle nouvelle, cette grande grâce de l'année jubilaire 2025 pour notre Bigorre, celle de l'élévation à la gloire des autels d'un prêtre de notre presbytérium, l'abbé Vergès. L'abbé Vergès, enfant, né en 1910, connut les tourments de la Première Guerre mondiale et dans son enfance se rappelle combien les enfants, chaque jour, avec toutes les femmes quasiment du village ou ceux qui n'avaient pas été mobilisés, se rendaient à l'église pour prier, vous imaginez avec quelle gravité, pour tous ces jeunes hommes partis du village d'Aucun, et ceux que l'on vivait à Aucun, nous l'avons vécu dans chacun de nos villages. La messe quotidienne voyait réunie une foule nombreuse pour intercéder pour un père, un grand frère, un neveu, un ami, un voisin, un ouvrier agricole, parti répondre à l'appel des drapeaux. Cet abbé Vergès, j'ai pu vous raconter les derniers instants de sa vie. Il meurt à 34 ans, un an après. Selon la tradition, notre Seigneur Jésus le Christ, devenu prêtre, confirmé en cette église où il reçut véritablement ce jour-là sa vocation à devenir prêtre, à suivre étroitement le Christ, le voilà rappelé sous les drapeaux et avec son régiment fut prisonnier. Il demeura, malgré des brimades immenses que l'on n'imagine pas, prêtre à travers ces camps de prisonniers. Il rechignait forcément à parler allemand, la langue de l'envahisseur, la langue de ses geôliers, mais il le devait dans son travail. Il était demeuré une oreille extrêmement attentive à tous ceux, chrétiens, mécréants, qui venaient lui demander de prier, qui venaient demander également le sacrement de confession. Cet abbé Vergès, dans ses derniers instants, incarne, à l'image de Saint Martin, qui vêtit ce pauvre, incarne cette charité que le Seigneur attend de nous. L'abbé Vergès, après avoir connu plusieurs séances de flagellation, puisqu'on suspectait qu'il était forcément un épion du Saint-Siège ou même de la résistance française, était sur son lit de souffrance, dans une faible infirmerie. Et à côté de lui se trouvait un jeune Allemand de surcroît. Le prochain n'a pas d'origine, nous dit le Seigneur. Il n'a pas de race, il n'a pas de religion, c'est le prochain. Et voilà que ce jeune Allemand qui avait été eh bien, coupable, si vous voulez, d'une agression à l'endroit d'un nazi, avait eu la jambe complètement arrachée lors de son arrestation. Et il était sur le lit à côté de l'abbé Vergès. Et croyez bien, on n'était pas à ça près que l'on ne l'avait absolument pas soigné. Dans des quintes de toux immenses, car notre brave abbé Vergès était atteint du typhus, réussit péniblement à se rendre auprès du lit de ce prochain Allemand à travers lesquels, dans cette souffrance, il y reconnut le Seigneur crucifié. Il s'efforça de bander sa jambe, de faire ce qu'il a pu avec ce qu'il avait à ce moment-là, et c'est en revenant d'avoir posé cet ultime acte de charité, après des jours et des jours de flagellation intense, que l'abbé Vergès tomba à genoux et rendit son âme à Dieu. Voilà encore une des incarnations, eh bien, de cette page de l'Évangile. Aux côtés du maréchal Foch, qui est une des gloires de notre Bigorre, il est heureux de savoir et bien porter à la gloire des autels notre jeune abbé Vergès. Un jeune abbé qui s'est efforcé de vivre et de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain. C'est donc pour nous une action de grâce particulière que de savoir ce grand frère, héros de notre Bigorre, au ciel, à intercéder pour nous, à prier pour nous et avec nous en cette heure. Puissent donc tous ceux et celles qui ont fait et façonné la France à travers les âges prier avec nous en cette heure pour qu'elle se relève et qu'elle puisse redevenir ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, la douce France, celle que nous aimons et celle que nous appelons de nos voeux. Puisse Saint-Martin et bientôt le jeune abbé Vergès prier et intercéder pour nous. Ainsi soit-il.